Poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Jacques Derrida a eu cette phrase un jour, « Écrire veut dire greffer, greffer ». J'ai retenu cette phrase parce que dans ma vie professionnelle, j'étais greffier. Et donc greffer, greffier, la littérature est une greffe. Et la littérature, comme dit Justine Augier, qui a écrit un très beau livre sur croire, sur les pouvoirs de la littérature, et il faut croire à ces pouvoirs. La littérature, elle redonne au temps sa texture, l'épaissit, convoque les fantômes, ceux d'avant et ceux qui viennent, et cette conversation à laquelle toujours elle nous fait revenir, demeure une conversation pleine d'espoir. Je crois que l'espoir peut se puiser dans la littérature. Et pour reprendre les idées de Justine Augier, dans ce livre paru aux éditions Actes Sud l'année dernière, elle disait que les livres ne provoquent pas de révolution, mais ils nous travaillent longtemps, et d'une façon mystérieuse. L'influence poétique, le lapsus est intéressant. L'influence poétique est très lente. C'est une affaire d'accumulation. Ça, c'est le poète palestinien Mahmoud Darwish qui disait ça. Et les livres, ils résistent en nous. Ils sont forcément engagés sous le règne de l'immédiat. Il nous relie à l'histoire, il creuse, il relie et nous prépare à de nouvelles formes de circulation, à la perception de nouveaux échos. Il ranime en chacun les disparus et les possibles. Il relance notre imagination. Les livres font scintiller ce qui a été sauvé des ruines et traverse le temps. Les livres élargissent le champ de ce qui nous concerne, s'adresse en nous à ce qu'il y a de plus vif et de plus ancien. Voilà. Et puis, tout à l'heure, j'ai cité Mahmoud Darwish, qui dit que l'influence poétique est très lente et que c'est une affaire d'accumulation. C'est ce que nous essayons de faire, nous. Cette affaire d'accumulation avec l'ordre. Et depuis 1981, qu'est-ce que nous faisons si ce n'est accumuler cette influence poétique donc sur les auditeurs et leur faire connaître tous les poètes que nous allons citer. Et pour reprendre ce que dit Mahmoud Darwish, le poème, lui, il doit avoir une forme hospitalière. Une forme hospitalière. C'est cela que nous voudrions vraiment vous donner à écouter, cette forme hospitalière de la poésie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeune poète, enfin jeune à mes yeux. Il est né en 1985, il s'agit de Guillaume Decourt. Guillaume Decourt, nous en avons parlé ici, nous avons fait une émission sur son livre qui avait paru aux excellentes éditions « La table ronde ». Il avait paru l'année dernière, c'était le livre s'intitulait « Lundi propre ». Lundi propre, déjà, le titre était assez étonnant. Et alors ce livre, « Lundi propre », il a obtenu cette année, donc en 2024, il a obtenu le prix Marc Jacob. Et Guillaume Decourt, il récidive avec un nouveau livre, alors toujours aux éditions « La table ronde », qui s'appelle « Un temps de fête, poésie » de Guillaume Decourt. Alors Guillaume Decourt, je vous disais, c'est un poète qui est né en 1985. Alors il a une vie déjà, qui est déjà hors norme, parce que il a passé son enfance en Israël. Ensuite, il est arrivé en Allemagne et en Belgique. Et ensuite, il a vécu dans les monts du Forez. Il a vécu à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Vous rendez compte? pour un parcours comme ça, d'avoir traversé tous ces lieux, c'est-à-dire toutes ces civilisations aussi, toutes ces sociétés, la société israélienne, la société allemande, la société belge, et puis l'exotisme de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie. Et actuellement, il partage aujourd'hui son temps entre Paris et Athènes. Athènes, donc la Grèce. Et on pourrait d'ailleurs, nous devrions le mettre en relation avec notre ami Joël Montec, qui est professeur de théâtre à Athènes. Et Guillaume Decourt a publié à ce jour une dizaine de recueils déjà. Hein. Alors on va citer Un gratte-ciel, Des gratte-ciel. Ça, c'était en 2019 aux éditions Lanskin. Et puis un autre titre, À 80 km de Monterey, c'est aux éditions Etalides, c'était en 2021. Et Le bonjour de Christopher Graham, aux mêmes éditions, 2023. Et puis bien sûr, ce fameux Lundi propre, publié par La Table Ronde en 2023 également, qui a obtenu le prix Max Jacob, donc cette année. Alors, Un temps de fête, c'est un livre de 96 pages qui vous coûtera 14 euros. Et qu'est-ce que l'on dit dans ce livre? Alors, je vais prendre Jacques Morin. Vous savez, Jacques Morin, qui était le directeur de la revue Des Charges, hein, qui ne paraît plus. Cette revue, Jacques Morin, avec lequel nous avons fait des émissions ici, hein, très connu, Jacques Morin, comme poète et surtout comme directeur de cette revue Des Charges. Il dit de Guillaume Decourt, « Le narrateur un peu blasé regarde, amusé ou incrédule, les choses alentour. Tout est drôle, surprenant. On pense parfois à Apollinaire. Il y a beaucoup de charme dans cette poésie où l'inattendu croise sans cesse le banal. » Voilà, il dit ça à propos de Un temps de fête de Guillaume Decourt. La semaine prochaine, la semaine dernière, je me souviens avoir fait l'éloge de cette manière de lancer la poésie, justement en mêlant l'inattendu le plus inattendu, je pourrais dire, c'est-à-dire le plus improbable, avec le quotidien, le banal, la trivialité. Et justement, il y a maintenant, dans la poésie contemporaine, la poésie d'aujourd'hui, il y a ce mouvement, c'est-à-dire des poètes qui pratiquent, d'une façon naturelle d'ailleurs, hein, il n'y a pas là de maniérisme ni quoi que ce soit, ils pratiquent, donc, et d'une façon universelle, puisque on a vu aussi bien un japonais qu'un français, ils vont mêler justement ces rapprochements qui sont des rapprochements absolument incongrus dont personne n'aurait pensé, avec également la vie de tous les jours, le langage de tous les jours, ce qui permet de laver les mots, de laver la langue et de faire que cette langue auquel nous nous sommes tellement habitués que nous finissons par ne plus l'écouter, même si nous l'entendons, mais nous ne l'écoutons pas. Ce sont des poètes, et des poètes comme Guillaume Decourt, qui, justement, par des rapprochements, qui sont des rapprochements inattendus au dernier degré, arrivent à faire naître ce saisissement de la curiosité, qui fait que, au lieu d'entendre simplement la langue dans ses expressions les plus familières que l'on finit par ne plus faire attention, en tout cas à la vider de leur sens, ces gens-là, ils vont laver le langage et redonner à la langue la noblesse qui est la sienne. Guillaume Decourt, Un temps de fête. Alors en exergue, il y a une citation de Jim Harrison, et qui dit « Quel plaisir de descendre de cheval au beau milieu du lac ». Voilà. Alors déjà, alors là, comme inattendu, comment on peut descendre de cheval au beau milieu du lac. C'est aussi ça, et le surréaliste, bien entendu, était friand de ça, c'est ça qui fait la poésie. Écoutons donc ces poèmes courts, très courts, désopilants, mais en même temps, comme dit Jacques Morin, avec cette perfection, parce que ce sont des poèmes en prose qui sont excessivement construits. Je veux dire que il a pesé au trébuchet près, là, hein, sur le trébuchet, il a mis vraiment chaque mot est pesé, quantifié, il n'y a rien de trop, et en définitive, ces textes qui paraissent être des textes guidés par une intuition subite sont, à mon sens, des textes qui ont demandé beaucoup de travail et qui emportent cette impression vraiment de suffocation par l'inattendu. Natation. Les nageurs ont une légère couche de gras sur les muscles, comme les Indiens des plaines et la plupart des peuples qui vivent dehors, me répétait mon père. Johnny Weissmuller était son héros. Il nageait le crawl en gardant la tête hors de l'eau. Il a fini sa vie dans un hôpital psychiatrique d'Acapulco. Chaque soir, il les faisait retentir son cri de Tarzan. Cela terrorisait les autres patients. Voilà. Donc vous avez vu, on part d'un fait qui est d'un fait de mémoire. Il se souvient que son père lui parlait d'un champion de natation. Il dit, tu as vu, ceux-là, ils ont une couche de gras sur les muscles. Et c'est vrai que les grands nageurs ont cette couche naturelle qui le corps se protège du froid et donc fait naître cette couche de gras sur les muscles. Et puis, donc, de la parole de son père va naître une autre image, celle du champion Johnny Weissmuller, et puis l'inattendu, c'est quand même que ce champion finit dans un hôpital psychiatrique et terrorise les patients par le cri de Tarzan. Voilà l'inattendu, c'est le cri de Tarzan. Incognito. Il n'y a pas d'âge pour se mêler aux propriétaires de véhicules tout-terrain de luxe, Range Rover ou Porsche Cayenne, qui dégustent une glace sur le boulevard de Poséidon. Il n'y a pas d'âge pour donner une pièce au cul de jatte qui joue du baglama dans une rue de Glyfada. Il n'y a pas d'âge pour porter la moustache et garder l'incognito. Il n'y a pas d'âge pour troquer sa casquette contre un Panama. Je ne sais plus qui a fait dans la critique de ce livre. Et a relevé cette image du Panama en disant ben, un poète, il peut pas avoir une casquette comme font ces gars de banlieue là, mettre la casquette en arrière. Non, le poète il se distingue et il porte un Panama. Voilà. Et comme si ce Panama c'était toute l'élégance du poète, mais aussi l'élégance de l'écriture, de la poésie. Surf. Je suis heureux aujourd'hui. J'invoque Duc Kahanamoku. C'était un homme de l'eau. Il était mon ami. Ce qui pouvait être beau. Ce qui pouvait être intelligent. Tout le monde s'en souvient à Honolulu. Tout le monde, y compris le requin blanc qui le suivait lorsqu'il nageait au large et qui jamais ne l'attaqua. Même dans son grand âge, du requin blanc, Duke ne faisait pas grand cas. Voilà. Alors bon, c'est son, ses voyages aussi, mais bon, c'est amusant de penser que lui, le poète, donc de ce surfeur, hein, qui était une vedette du surf, hein, Duke Kahanamoku, à Honolulu, ce surfeur, ben, il faisait fi, il allait au large, et il faisait fi des requins blancs. Voilà. Et alors il dit, lui, il y avait un requin blanc qui le suivait, et apparemment, il devait apprécier le surf aussi, ou apprécier le champion, puisque ce requin blanc, il n'a jamais attaqué le champion. Ceci même, précise Guillaume Decourt, même dans son grand âge. Small 6. Les intellectuels n'apprécient guère les small 6. C'est une chose regrettable, car il s'agit d'une boisson pour gens d'esprit. Il en existe pour tous les goûts. Du smoothie, spinoza, vanille, date et noix de cajou, au smoothie niche, orange, banane, avocat, en passant par le smoothie Wittgenstein, aux fruits rouges et lait d'amande, sans doute le plus diététique. On le recommande. Voilà. Alors moi, je connais pas les smoothies, hein, j'ai jamais bu ça. Mais le smoothie Wittgenstein me plairait assez, aux fruits rouges et lait d'amande, diététique. Voilà. Vous voyez que la poésie échappe à tous ces clichés là, hein, que rien ne lui est étranger à la poésie, absolument rien. Même pas le barbier. Il faut de la patience pour obtenir une moustache digne du cartel de Medellin. C'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Manier des instruments de précision. Avoir une grande capacité de décision. Se donner de la peine. Quelques millimètres de trop, on se retrouve à Carthagène. Quelques millimètres mettre trop bas, on termine à Manizales. Mieux vaut savoir prendre son temps, rien ne presse. Conseil à mes fils. Il a deux fils, je crois que ce sont des jumeaux, mais je suis pas sûr, mais il me semble. Conseil à mes fils. Ne dites pas de mal de votre pénis. D'autres s'en chargeront pour vous. Ne possédez rien. N'oubliez pas que la rage déshonore le caractère d'un chien. Tenez le coup. Ne parlez pas d'amour. Faites le bien. La masturbation rend sourd. Lorsque vous aurez peur d'avoir nagé trop loin, retournez sans honte au canot de secours. Soyez toujours poli avec les putains. N'écoutez aucun conseil. Surtout pas les miens. Alors voilà, ben, on retrouve là, dans ce poème, hein, très court, avec des phrases très, très, très brièves, hein, on dirait presque des phrases de notre ami qui fait de l'autofiction. Et donc, ces phrases courtes, percutantes, il y a toute l'autodérision. L'autodérision des gens qui arrivent à prendre du recul aussi sur la vie. Donc, il leur donne des conseils. Et qu'est-ce qu'il lui donne comme conseil à ses fils? De ne pas écouter les siens conseils. Voilà. Il y a là beaucoup d'humour. C'est une façon aussi de tenir à distance un petit peu la poésie, le langage, de mettre aussi de la distance, du recul, d'avoir un peu de dérision aussi avec tout ça. Tulum Pakia, difficile. Un homme qui refuse des Tulum Pakia, c'est un homme qui vous veut du mal. On ne peut pas lui faire confiance. Un jour ou l'autre, il vous fera un sale coup par derrière. Il faut toujours proposer des tulum pacia pour savoir à qui l'on a affaire. Un homme qui refuse des tulum pacia, ce n'est pas un homme d'envergure. C'est un homme qui a peur d'être contraint de porter des bretelles avec sa ceinture. Voilà. Alors on retrouve cet humour, cette dérision, hein. Voilà, cet humour qui fait, alors c'est l'inattendu, hein, un homme qui a peur d'être contraint de porter des bretelles avec sa ceinture. Oui, les hommes qui ont un gros ventre, hein, c'est peut-être ce à quoi ils sont exposés. Chemine hawaïenne. Je suis quelqu'un d'autre lorsque je porte ma chemise hawaïenne. Quelqu'un de réfléchi, qui prend de la hauteur, quoi qu'il advienne. On pourrait me dire que les troupes russes ont envahi la capitale, cela ne me ferait rien. Je laisse s'ouvrir sur ma toison pectorale de superbes fleurs exotiques. Je me sens bien, ma chemise hawaïenne et moi, nous ne faisons pas de politique. On retrouve ce ton du dérisoire, qui fait, c'est ce dérisoire justement, qui va faire à la fois l'humour, l'inattendu, le côté comique, et qui nous entraîne dans un monde, ma chemise hawaïenne et moi, nous ne faisons pas de politique. Bon, c'est l'inattendu le plus complet, on va pas demander à une chemise hawaïenne quelles sont ses opinions politiques. Et c'est ça la poésie aussi, c'est de ce rapprochement, se dire, tiens, mais ouais, ma chemise hawaïenne et moi, on ne fait pas de politique. Cocotier. Des cocotiers me font quelque chose. Qui puis-je? Ils montent tranquillement dans le ciel bleu. Rien ne les oblige. Les cocotiers m'émeuvent. J'ai grandi parmi eux. Se hisser jusqu'à leur noix comme un autochtone constituait toujours une épreuve. Et je m'en sortais honorablement. Toutes les dernières études le confirment. Être ému par les cocotiers est le signe d'un grand raffinement. Voilà. Alors toujours cet humour, ce dérisoire, c'est insolite, hein. Et bien entendu, les cocotiers sont les cocotiers de Mayotte ou de Nouvelle-Calédonie, dans lesquels il a grandi, Guillaume Decour. Voilà. Mais on apprend quand même qu'il montait au cocotier. Vous savez que c'est pas facile de monter au cocotier. C'est une épreuve, hein, puisque souvenez-vous, quand on dit il faut secouer le cocotier, c'est l'épreuve que l'on réservait aux personnes âgées pour voir si ils pouvaient toujours à la fois être capable de monter dans le cocotier et de s'y maintenir. Et s'ils s'y maintenaient pas, c'était un poids pour les autres. Chers confrères, c'était donc un chapeau de paille tressé par Marlon Brando. Il vous en avait fait cadeau, mais cela, je ne l'ai su que plus tard. Il a fallu cet accident, la Triumph TR5 en contrebas, le notaire, et que je tombe sur Lady Babe par hasard. Je le porte parfois en votre mémoire. Sur le bandeau intérieur, ces quelques mots, à l'encre indélébile noire, pour le docteur A, virgule, avec amour, Marlon, Tétia Roa. Donc, aussi c'est en Calédonie, Tétia Rio Roa. Voilà, donc on apprend qu'il aurait retrouvé un chapeau de paille, donc ayant appartenu à Marlon Brando. Bracelet. Je porte un bracelet charnière Sigma. un cordon en rami bleu clair avec deux diamants noirs sertis sur une baguette d'or. Ces deux diamants noirs sont jumeaux. Ces deux diamants noirs figurent deux bonobos. J'y tiens. Si je me noie demain, que je repose tout au fond la main posée sur une amphore, je formule cette requête qu'aucun archéologue à venir ne sépare le bijou du squelette. Quand on lit pour la première fois donc ce recueil, ces poèmes en prose de Guillaume de Cour, il y a une espèce de plaisir qui naît aussi de dire là c'est tellement inattendu ce que je lis, c'est tellement bizarre que vite on passe de l'un à l'autre en se disant mais qu'est-ce qu'il va trouver, quelle est la dernière chose qui va me surprendre, voilà. Et il y a des gens qui aiment se faire peur, il y a des gens qui aiment se faire surprendre par les idées, par la langue, par les rapprochements incongrus, inattendus, intempestifs. Eh bien voilà, si vous aimez ça, ce livre de Guillaume de Cour va vraiment vous ravir. Baseball. George Herman Root Jr., dit Babe Ruth, était originaire du Massif central. Il importe de rétablir la vérité. Lorsque le baseball outre-Atlantique n'en était qu'à son stade embryonnaire, Babe Ruth s'exerçait déjà au lancer dans les rues de Salers. Depuis un certain temps, des membres du conseil régional font tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'un grand musée lui soit consacré dans le Cantal. Voilà, il faut en parler à notre ami Jean-Louis Clarac. Harmonica. Leur unique pratique sportive consiste en une partie de football avec une pastèque, une cigare à la bouche, autour d'une piscine à minuit. Pendant ce temps, moitié gaulois, moitié grec, je me fais réprimander car je ne mange pas mes côtelettes d'agneau comme on joue de l'harmonica. Je porte mon panama dans l'église. Je pisse dans un bénitier. Mes jumeaux, je me refuse à ce qu'on les baptise. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de, quand il parlait de ses fils, j'ai parlé des jumeaux. Voilà, ça vient de ce texte. Alors là aussi, il parle de moitié gaulois, moitié grec. Hein. Il faut dire qu'il passe beaucoup de temps actuellement, il vit à Athènes. Guillaume de Cour. Feng Shui. Alors, tout cela n'était qu'une affaire de Feng Shui. Une simple affaire de Feng Shui. Min et Guo Mei me l'avaient pourtant dit. Il ne faut jamais négliger le Feng Shui. Le Feng Shui est une chose qui date de la dynastie Tang. Le Feng Shui se fonde sur le Yin et le Yang. Le Feng Shui est une chose réconfortante. Le Feng Shui est une chose très importante. Voilà. Là aussi, humour, et puis il joue avec la dynastie Tang, et puis au lieu de important, il dit important et réconfortant. Voilà. Il y a toujours cette dérision de prendre la vie un peu comme ça, en se moquant un petit peu. C'est surtout de lui qui se moque, c'est de soi. Samouraï. Il peut être bon parfois de prendre un coup de vieux. C'est ce que dit en substance le livre du samouraï, le Hagakure, ou ce que j'en ai traduit, vanille fraise. Ce n'est pas le temps passé, mais soi-même qu'on regrette dans la nostalgie. Dans chaque génération, il faut prendre ce qu'il y a de mieux. Il faut être content de payer le prix. Il faut se décider d'un coup lorsque le doute nous assaille. Alors, ce texte n'est en définitive moins anodin qu'il n'y paraît. D'abord, quand il dit « ce n'est pas le temps passé, mais soi-même qu'on regrette dans la nostalgie », est-ce que là, dans une simple phrase, il n'a pas trouvé, peut-être, ce qui a fait l'engouement de la nostalgie? Je pense, par exemple, au romantisme du 19e siècle, hein, qui a porté la nostalgie, et la nostalgie qui reste toujours un des vibratos, quand même, de la poésie, de l'âme poétique, de ce qui met, justement, dans cette disposition poétique, la nostalgie. Alors il dit, non, c'est pas, on se souvient, c'est pas tellement le temps qui est passé, qu'on va pas retrouver, ce qui se passait avant, et c'était mieux avant. C'est pas que ça. C'est pas ça. En définitive, c'est pas ça que l'on regrette. Et il dit, et je crois qu'il a certainement raison, je pense que les psychologues ne diraient pas autre chose, c'est en définitive ce que l'on regrette, moins de la période, c'est ce qu'on était pendant cette période, le personnage que l'on était encore alors, c'est-à-dire soi-même. Et je crois qu'il a raison de dire, ce n'est pas le temps passé, mais soi-même qu'on regrette dans la nostalgie. Et puis quand il parle des hésitations, la procrastination, là, dans chaque génération, il faut prendre ce qu'il y a de mieux, il faut être content de payer le prix, il faut se décider d'un coup lorsque le doute nous assaille. Voilà. Et quand le doute nous assaille, lui dit, il faut se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau, c'est aussi peut-être se jeter dans l'écriture pour lui. Zo, en ce temps-là, nous lancions des cacahuètes au petit singe du zoo de Vincennes. C'était un temps de fête. Il n'était pas interdit de nourrir les animaux sauvages. Nous n'avions que peu de décors pour la mise en scène. Les allers-retours du prêteur sur gage n'étaient pas difficiles à suivre. Qui n'a pas vécu dans les années voisines de celle-là ne sait pas ce qu'est le plaisir de vivre. Alors, c'était quand même il y a quelque temps, parce que interdit de nourrir les animaux sauvages, c'est quand même depuis longtemps. Mais c'est vrai que, et je me souviens, mais bon, je suis un vieil homme, je me souviens qu'il y avait au Jardin des Plantes, dans les années 50, où ma tante m'a mené, puisque j'étais en pension dans l'école maternelle Jules Julien, ici à Toulouse, elle m'a mené au Jardin des Plantes, et il y avait au Jardin des Plantes des singes. Et on achetait des cacahuètes, et effectivement, le plaisir, c'était de voir les singes attraper ces cacahuètes et manger les cacahuètes que nous avions achetées. Voilà. Et comme il dit, et il a raison de dire ça, parce que moi je l'ai éprouvé, ce moment-là, donc de lancer des cacahuètes aux singes du zoo, mais c'était un temps de fête. Oui, c'est vrai, c'était un temps de fête. Anthropologie. Mon sauvageon, mes sauvageons, quelques cigales dans la bouche, pas plus nuaire que Dogon, pas plus bororo que Nabib Kouara. Trop dangereux pour un film de Jean Rouche. Trop farouche pour une enquête de terrain. Vous hurlez en cache-sexe d'apparat. La cuillère d'ivoire et d'argent n'y changera rien. Mon sauvageon, mes sauvageons, si nous vous abandonnons, qui vous supportera ? Amusant, non ? Hurler en cache-sexe d'apparat. Hein ? Billets de banque. Tu comptes les billets de banque comme un diamantaire. Ta main gauche prend la forme d'un pistolet, index et majeur en canon, pouce en chien, les deux doigts faibles qui font le ponté. Tu glisses une liasse au milieu. Ta main droite se met à jouer pizzicato. Tu conclus tes affaires sous le manteau. Plus tu comptes, mieux c'est. Plus il y a de coupures, plus je suis amoureux. Voilà. Alors là aussi, texte absolument désopilant sur les billets de banque. Hein, plus il y a de coupures, plus je suis amoureux. Il dit pas de quoi il est amoureux ou de qui. Est-ce qu'il est amoureux de l'argent, tout simplement, ou est-ce qu'il est amoureux d'une belle dame et que, effectivement, tous ces billets de banque vont encore solliciter donc ce sentiment amoureux. Tirelire, encore de l'argent. Nous avons parlé de la piggy bank de Marchat. Nous avons dit que tous les parents font des erreurs. Nous avons nourri les chats. Nous avons parlé du désespoir. Nous avons vu sur Google Earth notre maison d'enfance à Gardinières. Nous sommes convenus qu'il ne faut jamais en faire toute une histoire. Nous ne nous sommes pas coupé la parole. À 80 ans, nous nous sommes rendus jusqu'à l'acropole. Voilà. Alors là, il y a d'abord la vie triviale qui est la nôtre actuellement, avec le Google Earth, pour voir un peu ce programme qui permet, le programme de Google, qui permet de voir à peu près où sont les... Il va retrouver à Gardinières, donc sa maison d'enfance, mais qui permet effectivement d'aller voir les lieux, comment se situe de visu. On va voir, grâce à ce programme de Google, on va voir dans toute la planète la maison d'un tel ou d'un tel, ou comment sont les villes, les immeubles. Donc il y a ça, c'est ce quotidien qui est maintenant ce quotidien technologique qui est devenu banal. Et le poème où il dit qu'à 80 ans, ils se sont rendus jusqu'à l'acropole. Et toujours sans se couper la parole. Ça, c'est rare, des gens qui ne se coupent pas la parole. Glace à l'eau. Dites à mes deux garçons que leur père est fier d'eux. Dites-leur que je vois comme ils sont devenus beaux et forts. Doute-leur que je sors, que dès que je sors, nous irons pêcher les écrevisses et le brochet. Dites-leur que nous mangerons ensemble des glaces à l'eau pleines de colorants et de conservateurs. Dites à leur mère, si je meurs, que j'ai payé le prix pour tout ce que j'ai fait. Voilà, amusant, non ? Alors les glaces à l'eau, ça fait penser un peu à une chanson de Jonas, de Michel Jonas, mangeant les glaces à l'eau. Yves Charnay serait chanter ça. Et en même temps, dites à leur mère, si je meurs, que j'ai payé le prix pour tout ce que j'ai fait. Bon, c'est pas ce qu'il a fait, mais enfin, il en a payé. Il y a le prix. Hein. Bon. Faveur. S'il te plaît, ma chère, fais-moi une faveur. Garde-le pour toi. Ne le dis pas à ta mère. ne le dis pas à ton père, ne le dis pas à ta sœur, et surtout pas à ton frère. Garde-le pour toi, ce sont nos affaires. Bien sûr qu'il n'y a pas de danger à Paris. Mais tout de même, tu connais ma femme, et je connais ton mari. Nous n'avons pas le choix. S'il te plaît, ma chère, fais-moi une faveur, garde-le pour toi. Bon, énigmatique, hein ? Énigmatique. Ce sont nos affaires. Il n'y a pas de danger à Paris, mais tout de même, hein, il y a sa femme et puis il y a son mari. Mais ils vont le garder pour eux. Vous avez compris ? Grandes écoles. Médire des gens favorise le flux sanguin et préserve le système cardiovasculaire. Il ne faut en aucun cas s'installer à la campagne. Cela se révèle délétère. On ne peut y critiquer les arbres. On y perdra ses forces, à moins d'être ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts. On pourra dans ce cas établir les tables de production pour le pin Douglas et le pin Laricio de Corse. Ne pas s'établir à la campagne. Parce que on va y perdre ses forces. Voilà. On ne peut y critiquer les arbres. Il y a ce côté quand même très provocateur. Mais l'inattendu, c'est toujours une provocation en définitive. Hein. Avant-guerre. Cette table m'est devenue objet de culte. Deux siècles d'insultes. Toute mon ascendance. Lorsque j'y déjeune, je crois entendre des R qui roulent. Des catapultes. Aucune élégance. Des harmoniques grossiers se propagent à travers le bois. Du vieux français, du patois. Mes arrière-grands-parents qui me traitent de fils de pute. Avant-guerre, hein? Bon, on comprend pas pourquoi avant-guerre. Ben oui, avant-guerre. Donc, parlez patois. Et ses arrière-grands-parents qui le traitent quand même de fils de pute. C'est assez amusant. Deux siècles d'insultes dans cette table qui est devenue objet de culte. Voilà. Et donc, dans cette vieille table qu'il a trouvée de chez lui, il a retrouvé les accents d'avant. Les R qui roulent, c'est vrai que nous avons perdu l'habitude de rouler les R. Des gens comme moi, qui ont passé, qui arrivent après de 80 ans, ben oui, nos grands-parents, ils roulaient les airs avec naturel, ils parlaient patois. Tueur à gage, de la discipline, de la cèse, du danger de la dispersion, un gentleman devrait dire des mots grossiers quand il baise. Puis, réapprendre le silence, la lenteur et la solitude. Considérer l'art comme l'égal du sport. Nager l'été, courir l'hiver, l'inverser encore. L'augmenter chaque jour de séries de pompes par 12 ou 32 en exergue. Comme les préludes et fugues ou les variations Goldberg. Congo. Le prince déchu du Congo. Il cherche une photographie dans son sac. Lui-même en costume d'apparat. un cygne noir passe sur le lac. Nous nous asseyons sur un banc. Il dit, « À cette époque, nous avons repoussé les Blancs. » Nous demandons, « Regrettez-vous de ne pas être roi ?» Il répond sans sourciller, « Cela ne me fait ni chaud, ni froid. » Les premiers souffrent comme les derniers. Les premiers souffrent comme les derniers. Et au Congo. L'ancien. Je suis de la vieille école. De la métro Goldwyn-Mayer. Du Western Spaghetti. Et du tiramisu. De Fort Knox. Et du pactole. Je suis de l'indépendance des fesses et des jolis dessous. Du bon café de ma maman, la plus grande entraîneuse de toute la Nouvelle-Orléans. Je suis de ceux qui dansent tout nus sous la pluie. Je suis de ceux qui tuent. De ceux qui savent qu'après un bon bain, rien n'y paraîtra plus. Voilà, ça s'appelle l'ancien. Voilà. Donc c'est ça aussi le poème, cette espèce de, on dirait, ça part un peu dans tous les sens, ça fait appel à des réminiscences, hein, à la fois les réminiscences, bon, de son enfance, où il allait au cinéma, voir ses westerns, avec bien entendu les grands noms de l'industrie cinématographique américaine, la Metro Goldwyn Mayer et les Western Spaghetti, Sergio Leone, tout ça. Il parle de Fort Knox, qui est quand même l'image culte de la trésorerie américaine, etc. Voilà. Il mêle tout ça et le poème va surgir de cet imbroglio inattendu, improbable, et qui donne cette image donc de tout ce qui se mêle en même temps avec des idées aussi qui peuvent aussi être des idées fortes. Je suis de l'indépendance des fesses et des jolis dessous. Voilà, et quelque chose, hein, où il s'insurge aussi peut-être contre un moralisme maintenant, hein. La bonne éducation. Premier vol à l'étalage. Un paquet de chips à l'ancienne, dissimulé dans ta chancelière. Tu n'as pas encore un an et demi. Bravo, mon petit. Belle précocité. Je ne peux que te féliciter. Tu n'as pas frémi. Tu as fait un beau sourire à la caissière. Je te promets que je ne le répéterai pas. Maintenant, allons donc à la fête foraine des Tuileries pour y déguster une barbe à papa. Voilà. Bon, amusant. Amusant, ce bébé, donc, puisqu'il n'a pas encore un an. Hein. un an et demi. Un an et demi, voilà. Et qu'on a dissimulé dans sa chancelière un paquet de chips. Feuille de soin. La crèche, c'est le goulag. Les professionnels y administrent la schlag comme des tortionnaires. On y drague des maladies qu'on croyait disparues, le typhus, la lèpre, la rage et la chaude pisse. Les épidémies sont toujours d'envergure au début de l'hiver, et les risques multipliés par 10. Il est recommandé de se faire vacciner, de prendre sa température et de consulter un vétérinaire. Voilà. Bon, amusant. Et puis, bon, cette idée de la crèche, où on y drague les maladies qu'on croyait disparues. Et c'est vrai que la crèche est un lieu hautement prolifique pour les maladies. Hein. C'est pour ça qu'on n'y rentre pas aussi facilement. Hôtel Antioche. Loustique domestique à demi-stock me prend la vie, m'empêche d'être. stop. Envoie ton père paître. Ne reculerai pas. C'est mal me connaître. Stop. Reçu le doudou. Forte chaleur. Déjeune de coudou. Parmi les haleurs. Stop. Fais le change en dollars. Maître étalon. Désespoir. Stop. Orphelinat proche. Ne serait pas long. Joignable à 8 heures du soir. Hôtel Antioche. Route de l'abandon. Stop. Voilà. Donc un poème aussi. Un peu plus, comment dirais-je, un peu plus désespéré. À la rivière. Vous ne savez rien de moi. Je ne vous ai pas tout dit. Ni comment je tuais l'ours armé d'un couteau et d'une ragatina. Ni comment je traînais sa fourrure sur plusieurs verstes dans la neige. Ni comment je caressais le saumon dont le ventre se froissait comme de la soie grège. Mes yeux bleus sont devenus gris avant de passer au beige. Voilà, je suis toujours le même. Je ne vous ai pas menti. Guillaume de Cour, un temps de fête, poésie. Avant-goût. Y a bon les bonbons, mais c'est délétère. À quoi bon? Y a bon bio, si bon bio, si bon, c'est bon pour la terre, c'est bon pour les gens, c'est pas si cher. Bio, si bon. Si pas d'argent, si pas barbon, si pas banania, si pas pudibon, si pas grand mania de l'acier, bio, c'est bon pour Gabon, c'est bon pour Gibon, c'est bon pour fonte des glaciers, bio, c'est bon, c'est équitable, bio, c'est bon. C'est carte sur table. Voilà. Donc, vous avez pu apprécier, donc, l'humour de Guillaume de Cour. Donc, une poésie, comment dirais-je, une poésie facile, prime sautière, amusante, et je dirais en même temps, éveillante. Voilà. Guillaume de Cour, un temps de fête, poésie aux éditions de la table ronde qui vous coûteront, ce livre qui vous coûtera 14 €. Il y a 87 pages de poèmes que je vous invite quand même à lire. Voilà, ainsi s'achève notre émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Adiciats.